Radio Spirale. En octobre 2010, le Centre commémoratif de l'Holocauste de Montréal organisait une table ronde entre des auteurs ayant écrit sur l'Holocauste et certains de leurs lecteurs, parmi lesquels se trouvait une survivante, Madame Olga Scher. La rencontre était organisée en partenariat avec Aleph, le Centre d'études juives contemporaines.
Je souhaite la bienvenue pour cette soirée qui s'inscrit dans le cadre de cette série éducative sur l'Holocauste qu'on vous propose depuis maintenant une dizaine de jours, qui va durer encore une semaine. Je suis très ravi d'être en votre compagnie. Je m'appelle François Bouguingo et ce soir, je vous propose quelque chose d'assez original, une rencontre un peu particulière entre celles qui écrivent et celles qui lisent, celles qui vivent et celles qui pensent, celles qui racontent et celles qui s'approprient ces histoires de l'Holocauste. Il y a plusieurs jours maintenant que des journalistes me demandent à quoi ça sert de parler de l'Holocauste. Pourquoi des dizaines d'années après, il faut encore revenir derrière, il faut encore en reparler comme s'il n'y avait pas d'autres drames, comme s'il n'y avait pas d'autres tragédies, comme s'il n'y avait pas d'autres crimes contre l'humanité qui s'étaient commis partout dans le monde. Or, à mon sens, à mon avis, l'Holocauste a ce mérite important de nous rappeler l'origine du crime des crimes, de nous rappeler le crime qui a été commis au nom de l'humanité, contre l'humanité. Et tant qu'on fera partie de cette humanité, je crois qu'il est important et est essentiel qu'on y revienne. Et vous rappelez peut-être de cet éditorial du journal Le Monde le 12 septembre 2001, au moment où, au lendemain de cette effroyable attaque que les Américains venaient de subir, je pense que c'est Alain Minc qui avait dit « Nous sommes tous Américains ». Et je crois que tant qu'on aura la mémoire, tant qu'on aura le devoir de mémoire, on se dira tous qu'on aura été tous des Juifs et qu'on aura tous été victimes d'une certaine manière de l'Holocauste, de la Shoah. Et c'est pour cela que je crois qu'il est essentiel qu'on y revienne. Mais comment parler de l'Holocauste? Comment parler de la Shoah? Comment raconter le non-racontable? Comment parler de cette réalité que certains encore aujourd'hui s'entêtent à refuser? Alors, il y a certains qui ont tenté de le faire par l'écriture, il y a certains qui ont tenté de le faire par le cinéma, il y a certains qui ont tenté de le raconter dans la chanson, mais est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'on peut tout raconter? Est-ce qu'on peut parler sur tous les tons de cette réalité? Est-ce qu'on peut en rire? Je m'en rappelle, moi, pour avoir lu le livre de Catherine Mavrikakis, qu'à un certain moment, je me bidonnais. Et je me sentais en même temps coupable de rire. Est-ce qu'on peut raconter la Shoah et en même temps avoir des moments de fou rire? Le Booker Prize, qui est sans doute l'un des prix littéraires les plus importants après le Nobel, a décidé de couronner cette année un livre plutôt drôle et un livre qui parle en même temps de l'Holocauste. Est-ce que c'est un manque de tact? Est-ce que la littérature a droit à tout? Voilà les sujets et voilà les réflexions qu'on s'est proposé de partager avec vous. Et on va le partager avec quatre personnes que je vais vous présenter tout de suite. D'abord à l'extrême droite, et je pense que ça augure pas de votre opposition politique, hein, Catherine. Hein, vous allez me rassurer. C'est Catherine Mavrikakis, qui est l'auteur de plusieurs romans, et notamment celui-là. Celui-là qu'il faut absolument s'offrir, hein, qui s'appelle « Le ciel de Bay City ». Un livre terriblement passionnant et un livre à la fois terriblement terrible. C'est je sais pas comment le raconter. J'ai plus jamais regardé le ciel de la même façon, Catherine, après avoir lu ce livre, parce que la couleur mauve violette qui illustre la couverture est en même temps une trame récurrente de ce récit, un récit dont on se sort pas. C'est un livre qui lui a valu le Grand Prix de la ville de Montréal en 2008, vous qui venez de publier donc cette année, L'éternité en accéléré. Et ce livre-là, Catherine, vous voulez me répondre tout de suite, comment on en sort? Une fois qu'on a écrit un livre reconnu à ce point, est-ce que après ça, ça devient quasiment impossible de faire l'après?
Non, honnêtement, c'est pas très difficile pour moi de continuer à écrire. Peut-être que je suis complètement inconsciente, mais je pense que d'ailleurs il faut être très inconscient quand on écrit. Mais non, j'ai l'impression que je vais continuer et puis peu importe si le prochain a pas autant de succès. Je pense que c'est pas. Je me suis pas posé la question. Pour moi, c'était ça va de soi d'écrire. Donc.
Je me suis refusé de regarder et de lire un peu toute la couverture de presse qui a entouré la sortie de ce livre et puis l'après. Et je me suis dit, j'avais envie de vous poser cette question. Quelle est la part de l'autobiographique? Quelle est la part de totale fiction qui est dans ce livre?
C'est un travail à la fois sur quelque chose que j'ai vécu et quelque chose que j'ai pas vécu, je pense, comme tous les livres que j'ai écrits d'ailleurs, mais c'est pas un témoignage, ça. C'est sûr que c'est pas de l'ordre du témoignage. D'ailleurs, vous disiez tout à l'heure, comment parler de l'Holocauste? Moi, je pourrais pas en parler. C'est-à-dire, je peux parler des livres que je lis sur l'Holocauste, mais je pourrais pas en parler. Je peux écrire, ce qui est complètement différent pour moi. Je me sens pas du tout habilitée à parler de l'Holocauste. Par contre, écrire, étonnamment, me donne un espace où je peux parler, où la fiction, où vous demandiez aussi est-ce que tout est possible dans la littérature, oui, je crois que par la littérature, quelque chose est possible qui n'est pas de l'ordre de simplement de la réalité ou du témoignage.
Et vous êtes caché à quelques moments, vous avez eu l'impression que vous viviez un peu le syndrome de l'imposteur, un rencontrat peut-être des survivants de l'Holocauste, un rencontrat des gens qui l'ont vécu dans la chair et dans l'âme
ou... Non, pour vous dire la vérité, non.
Elle est inconsciente, hein.
Non, mais je crois que écrire, c'est toujours être dans une certaine imposture, de toute façon, parce qu'on n'est jamais, on ne vit jamais complètement ce qu'on écrit, et en même temps, je me sentais pas dans le syndrome de l'imposteur, et parce que à envier à quelqu'un d'avoir vécu l'Holocauste, ça serait quand même encore plus obscène. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Je pense que je dois... De toute façon, les prochaines générations témoigneront aussi de ce qu'elles n'ont pas vécu. Donc, je pense qu'il faut commencer à témoigner de ce qu'on n'a pas vu. Et puis, il y a le travail des historiens, bien sûr, qui doit continuer. Mais il y a le travail aussi des écrivains qui est de jouer avec la réalité et puis de montrer quelque chose de ce qui est quand même inimaginable.
Voilà, vous le dites très bien parce que c'est un livre aussi sur la transmission, le partage de ce passé que certains ont vécu, que d'autres, les générations à venir, n'ont pas vécu. On va y revenir avec celle à qui on demandait de lire ce livre, Sonia. Mais je vais vous présenter l'autre auteur à l'autre extrémité. C'est Catherine Schwetz. Bonjour, bonsoir Catherine.
Bonjour.
Alors là, est-ce que vous avez toujours 17 ans ou on est maintenant 18 ans?
Non.
Histoire 17. De savoir... Ah, vous êtes encore 17 ans. Est-ce que c'est autorisé que les enfants soient à l'extérieur, à par ailleurs? Donc Catherine Schwetz est une jeune auteure de 17 ans qui est étudiante à l'École internationale de Montréal. Et donc son premier recueil de nouvelles, Hitler et la fillette, est paru chez Flammarion en 2010. Flammarion, quand même, il faut le faire. Et en 2007, vous avez reçu le nouveau prix Antoinette Robidoux pour le soutien scolaire qui offre à une jeune élève allophone dans le cadre de l'école du samedi de Promis, un organisme d'aide et d'intégration des nouveaux arrivants et d'immigrants de Côte des Neiges. Racontez-moi tout. Honnêtement, il n'y a personne qui nous écoute, on est entre nous.
Parfait.
Comment on en arrive à écrire un tel livre à votre âge?
D'abord, je trouve que quand j'écris, j'ai pas d'âge. J'écris pas ça parce que j'ai 17 ans. Et je trouve que le fait que j'ai 17 ans, ça peut inspirer ou influencer certaines choses que j'écris, mais ce n'est pas la principale raison pourquoi j'écris. Donc, là, on le met de côté tout de suite. Et sinon, par la suite...
Mais vous avez conscience, hein, Catherine. Excusez-moi, oui. Vous avez conscience quand même que ce n'est pas des sujets, une écriture des filles de votre âge. Je ne sais pas à quoi elles pensent, les filles de votre âge. Je ne vais pas me passer pour un pervers, même si on a côté de l'oratoire. Mais on se dirait, vous avez d'autres soucis, vous avez d'autres préoccupations, et puis remonter comme ça en arrière et raconter cette histoire, c'est quoi votre lien personnel et individuel par rapport à cette histoire?
D'abord, c'est une histoire qui a toujours fait partie de moi. C'est-à-dire que je suis née avec, j'ai grandi avec. Ma grand-mère m'en a toujours parlé, mes parents m'en ont toujours parlé. J'ai toujours regardé des films, j'ai lu des livres, j'ai regardé des images, je suis allée au musée. Donc, n'y a pas vraiment de partie où est-ce que je me suis dit, je pourrais écrire un livre sur ça. Mm. T'as grandi avec des fois...
C'est lourd à porter?
Pardon?
Est-ce que c'est lourd à porter?
Oui et non en même temps. Je dirais que c'est très lourd à porter, mais je dirais pas que c'est personnellement lourd à porter. C'est-à-dire que je trouve que c'est un sujet très lourd, mais qui est lourd à porter pour tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde devrait porter ce poids. Pas juste moi. Mmh. Pas juste parce que ma grand-mère a été dans les camps et les ghettos.
On va y revenir avec Olga qui a eu la gentillesse de lire ce livre. Aujourd'hui, la génération de ceux qui ont vécu directement cette abomination, c'est une génération qui est en train de partir, qui est en train de disparaître. Quel est votre rôle dans tout ça? Est-ce que vous avez l'impression que vous avez une responsabilité de porter cette histoire pour les générations à venir?
Oui, c'est certain. Parce que c'est quelque chose qui ne devrait pas être oublié aucune possibilité. C'est quelque chose qui devrait toujours être rappelé, parce que si on veut pas que ça se répète, faut d'abord commencer par pas l'oublier.
Ouais. Et comme disait si bien Churchill, c'est un personnage que j'aime bien rappeler. Oublier le passé, ça lui permet de revenir. Et donc là, je vais vous présenter votre lectrice. Je ne sais pas si vous êtes rencontrée. Non, c'est vraiment
c'est
là.
Live.
C'est là. Là.
C'est vraiment plaisir.
Voilà. Alors je vous présente Olga Cher. Bonsoir, Madame Cher. Olga, qui est née en 23 en Pologne, et en 42, vous avez travaillé dans un camp de travaux forcés, et vous avez appris à ce moment-là l'imminence d'une rafle. Vous êtes échappé à la campagne avec votre père et vous êtes caché grâce à l'aide d'un ami catholique. Et en août 44, l'armée russe a repris la ville et vous avez été rapatrié à Cracovie. Cracovie, qui est quand même une ville assez symbolique. Quel regard vous avez porté à cette écriture d'une jeune fille comme Catherine qui, des décennies après la réalité de l'abomination.
Je suis Olga Cher, je veux me excuser puisque mon français n'est pas très bon, mais je veux parler français tout le temps et si j'ai besoin de votre aide, alors je veux demander, ok? je tenais en Pologne, je grandis en Pologne jusqu'en 1939. Nous étions à Varsovie avec mes parents et ma sœur qui est plus jeune. Et dans 7 jours après la guerre a commencé, la guerre a commencé le 1er septembre, on a décidé de quitter la Pologne, la Varsovie. Et mon père a dit, est-ce que vous pouvez m'attendre? Ok. Et mon père a dit, on va quitter Varsovie pour 3 semaines et nous allons revenir. Nous sommes revenus 5 ans après. Alors, la guerre était un massacre. Ça je ne dois pas expliquer, je suis sûre que vous connaissez. En tout cas, quand je grandis à Varsovie, je fréquentais l'école franco-polonaise, mais pas trop longue, seulement pour 2 ans, c'était vraiment la langue française, et après c'était polonais, et français aussi, mais pas tout le temps comme avant. En tout cas, j'avais encore une dame qui est venue quand j'ai grandi, qui conversait avec moi en français. C'était très important pour mes parents de parler les autres langues. Alors, j'appris français. Alors, je vais parler un peu au sujet du livre, un peu à mes... comment on dit quoi?
De mon histoire.
Oui, de mon histoire. Et j'étais étonnée puisqu'il y a toujours les différences entre les pays qui étaient occupés par les Allemands. Alors, il y a beaucoup de caractères ici qui se promènent libres. Oui, alors je ne suis pas sûre, est-ce qu'elles sont juives? Elles sont juives, je sais, mais elles sont libres, elles ne doivent pas être dans les ghettos ou cachées. C'était impossible en Pologne. La Pologne avait 3 millions de juifs, parmi les 33 millions des habitants. 3 millions de juifs à Varsovie, dans tous les pays, chaque 10e personne était juif, à Varsovie, chaque 5e personne. Alors, c'est beaucoup. C'était beaucoup de troubles pour Hitler. Comment on peut liquider les juifs au Danemark? entendu. On peut liquider vite, mais 30 000, c'est un peu trop difficile. Alors, mais il a succédé.
Oui.
OK. Alors, nous sommes... Non, mais je vais retourner au livre. Ici, je vois les jeunes filles de 10 ans et une grand-mère. Oui. Elles se promènent, elles se rencontrent, deux filles, elles bavardent, on reconnaît qu'est-ce qu'il se passe dans leur famille, mais ce n'est pas très... C'est clair que c'est la guerre, mais c'est très différent que ce qui se passait en Pologne. Puisqu'il y avait beaucoup de... ce que j'ai dit, 3 millions, alors on a commencé depuis le commencement. Les Allemands sont venus puisqu'ils sont... Au commencement, c'était une grande amitié entre la Russie et l'Allemagne, mais après, Hitler toujours avait besoin d'être beaucoup d'espace de briser, oui. Et il occupe Pologne soudainement. Nous ne savions pas qu'est-ce que ça arrive, puisqu'on vit les aéroplans,
les avions.
Les avions.
Ouais.
Et on ne connaissait qu'est-ce qui se passe. On a ouvert le radio, c'est 1941, 22 de juin, je connais la date très bien. Et encore, on est tout à fait surprise que c'était les Allemands qui ont entré et occupé toute la Pologne, je pense, en 1941. Et il était sûr qu'ils ont resté là-bas et ils ont avancé en Russie. Alors, après quelques mois, nous sommes au ghetto. Qu'est-ce que c'est le ghetto? C'est un quartier où on est prisonnier. On ne peut pas quitter quand on veut. On ne peut pas habiter où on veut. Par exemple, nous sommes sur la rue principale, mais ça devient la rue Adolf Hitler Straße. Alors, c'est le premier... comment on dit? On doit quitter tout de suite, puisque les Juifs ne sont pas
autorisés
là-bas. Nous sommes indiqués. Et moi, je vais vous montrer ce que j'ai porté, puisque j'ai caché ça. Alors,
c'est extraordinaire. Il faut que Catherine, vous preniez ça, parce que okay. C'est...
Alors, ce n'est pas tout à fait, comment on dit, légal. Ça devait être autour de la main. C'est la dernière que j'avais et c'est fait vraiment à la maison. C'est le papier, mais j'ai mis dans ma poche quand j'ai quitté notre camp, puisque après le ghetto, il y a le camp. Oui, camp. Et j'ai mis ça dans ma poche. C'est pour ça que j'ai ça. Aussi, on a attaché parfois différentes lettres. Cette lettre, c'est Rüstig, ça veut dire armée. Alors, on a dit, si vous travaillez en armée, on est sécuré, mais c'était tous les mensonges. C'était toujours quelque chose qui n'était pas vrai, mais on avait besoin de croire que c'est la vérité. Alors, nous sommes au ghetto et nous sommes les esclaves. Si on travaille, on sort dans la groupe, c'est pour ça que j'étais... C'était bien de lire de quelqu'un en France, non, en Ukraine, il était libre, mais si c'est vrai, sinon, ce n'est pas grave. Vraiment, puisqu'il y a beaucoup des histoires. Et c'est vraiment, on doit avoir, c'est impossible d'imaginer ouais. Tous. Si je parle aux enfants dans notre musée, je leur dis, n'essayez pas de comprendre tous, puisque même nous qui étions là, on ne peut pas comprendre. Ouais. C'était si terrible.
Ouais.
On ne peut pas expliquer avec les mots de ordinaire.
D'où le défi justement des jeunes comme Catherine de raconter une histoire encore inimaginable pour ceux qui l'ont vécu. Alors, on peut s'imaginer celle qui est venue des générations oui. Après. Ça vous fait quoi de toucher ces symboles, Catherine?
Je ne sais pas ce que c'est. Okay.
Ça ne tente pas de les toucher.
Non.
Non. Je veux dire, je pourrais le prendre, mais j'ai comme la main qui tremble, ça ne me tente pas.
D'accord.
Je veux dire, c'est...
Bon, on va revenir à vous deux tout à l'heure.
Ouais.
Olga vient de lancer en fait la grande réflexion, puisque en faisant critique littéraire d'une soirée par rapport à ce livre de Catherine, elle a posé ces questions du genre est-ce que c'est véridique, est-ce que il faut être dans la véracité des faits. C'est une réflexion qui nous traverse hein, chaque fois qu'on parcourt le livre de Catherine Mavrikakis. Et vous Sonia Sarah Lipsic, vous l'avez lu, vous êtes docteur en sociologie, membre associé. Je déteste les noms de centres de recherche. C'est systématiquement compliqué.
En plus, c'est caduque.
Ben voilà. En plus, c'est caduque. Ben, je saute la phrase. Et vous œuvrez depuis des années dans la recherche, que comme militante à l'avancée des droits des femmes au sein du judaïsme. Et puis, depuis le début de 2009, est-ce que ça compte toujours? Ça marche?
Ça, c'est caduque.
D'accord. Et, vous dirigez Aleph, qui est le centre d'études juives contemporaines à Montréal. Est-ce que, vous, comme lectrice, vous avez lu le livre de Catherine, il y a une part de roman, il y a une part de fiction. Est-ce qu'il y a cette obsession, cette volonté, ce souci du détail factuel qui vous obsède autant quand on s'approche des livres qui racontent l'Holocauste, qui racontent la Shoah?
D'abord, on fait une vie avec sa propre biographie, ce qu'on a entendu, son héritage familial, et on fait une vie aussi au travers des rencontres et des livres que l'on lit. Pour moi, la lecture, c'est pas un divertissement. Ok, de temps en temps. Donc, on se forge au travers de ces lectures. Le livre de Catherine Mavrikakis, c'est le premier livre que j'ai acheté en venant au Québec. Il y a un an et demi, un peu plus d'un an et demi. Parce que c'est comme des mets aussi. Moi, j'ouvre les livres, puis je lis quelques lignes. Quand on est une lectrice de longue date, vous devez le savoir aussi. Et tout de suite, on sent. Comme un humus, comme ça. Et j'ai tout de suite senti la langue. Avant même de m'intéresser au thème. Et puis, le ciel, c'est l'un des personnages principaux de cet ouvrage. Et ça m'a intéressée parce qu'une des choses que j'aime à Montréal, c'est le ciel. J'ai aimé le ciel de Jérusalem, j'ai aimé la lumière en Hollande, et j'ai adoré le ciel de Bay City. Enfin, adoré, il m'a touchée. Des mots à sa couverture. Je veux dire, c'est un personnage métaphysique, le ciel. C'est un des personnages du livre. Tout à l'heure, vous avez...
Un personnage essentiel. En
fait. Essentiel. Vous avez posé en rafale comme ça un certain nombre de questions et avec votre permission, j'aimerais en relever deux ou trois. Il y en a marre d'entendre parler de la Shoah. C'est une des phrases que vous avez dites. Et oui, parlons sans tabou, on l'entend. Et bien sûr que la Shoah, ça ne concerne pas que les Juifs. Moi, j'ai appris ça quand j'étais toute petite. L'antisémitisme, ce n'est pas l'affaire des Juifs seulement. Le racisme anti-noir, ce n'est pas l'affaire des Blacks seulement. Vous savez, Léo Ferré, il disait, quand on scie un arbre, j'ai mal à la jambe. Alors quand on insulte un humain, à plus forte raison. Et en plus, quand ça va jusqu'au massacre. Alors oui, l'antisémitisme, la Shoah, c'est l'affaire de tout un chacun. Chacun a une légitimité par rapport à ça. Maintenant, après, les histoires, elles se croisent, elles sont différentes. Écoutez, je suis en train de lire votre livre. Je me dis, à moins de croire à la réincarnation, d'où vient cette connaissance immémorielle? Ça traverse, ça passe. Et pour juste dire un mot sur la transmission, parce que c'est une des questions que j'ai envie de poser, mais quand vous m'en donnerez l'autorisation à Catherine Mavrikakis. Un jour, il y a des années, j'étais à une manifestation en France anti-Le Pen, puisque vous parliez d'extrême droite. Cet homme qui a osé dire que la Shoah n'est qu'un détail de l'histoire. Et dans cette manifestation, c'était à Strasbourg, il y avait des milliers de personnes, c'est une manifestation nationale. Et puis je vois une banderole, fils, filles et petits-fils et petites-filles déportés de France, de Serge Klarsfeld. Alors Serge Klarsfeld, c'est cet homme extraordinaire qui a fait le travail que vous savez, de retrouver les noms des disparus et qui, avec sa femme Beth Klarsfeld, allemande, celle qui était célèbre pour la gifle qu'elle a donnée à je ne sais plus quel chancelier d'Allemagne. Et je regardais, je me disais, waouh, ouais, vraiment, c'est bien. Une manifestation contre le fascisme potentiel, eh bien ils sont là. Et j'étais fière d'eux. Puis tout à coup, je regardais cette affiche, cette banderole, alors que je connaissais leur existence depuis des décennies. Et je me dis, mais attends, fille et petite fille de déportés juifs de France, c'est moi. J'avais toujours su que mon grand-père avait été déporté. Je m'étais toujours sentie en dette à cet égard-là. Et c'est ce que j'ai travaillé dans l'ouvrage que j'ai écrit sur l'état de juif. Mais tout se passait comme si j'avais jamais fait le sens inverse. Petite fille. Et en voyant là sur la banderole, ça m'a interpellée. Et c'est là où j'ai compris à quel point beaucoup de choses étaient liées. En mai 68, puisqu'il est question de grève là en ce moment en France, en mai 68, on a insulté, dans les manifestations gaullistes, on a insulté Cohn-Bendit en disant Cohn-Bendit, qui était le chantre, le leader, hein, Daniel Cohn-Bendit de mai 68, Cohn-Bendit à Dachau. Vous imaginez ? Des gaullistes criant ça ? Et alors, du coup, il y a eu ce slogan célèbre, « Nous sommes tous des Juifs allemands ». Alors, Marina Tsvaïteva, la grande poétesse, avait déjà dit « Nous sommes tous des Juifs ». Poète, enfin, à partir du moment où on croise quelque chose du paroxysme de l'humain, se cristallise parfois dans l'histoire juive. Et c'est ça qu'on rencontre. Et moi, je suis heureuse de partager cette table avec tous les gens qui sont ici sur la table.
Je suis très content que vous disiez ce mot, nous sommes tous juifs. Mais vous avez aussi raconté, vous avez aussi parlé de l'importance de ce personnage du ciel dans le livre magnifique de Catherine Mavrikakis. Et je vais revenir à vous, Olga, parce que j'ai eu le privilège d'être cette fin de semaine à Berlin. Et puis le ciel était gris. Le ciel était presque mauve comme le ciel de Bay City. Et c'est assez absurde, hein, pour poser cette question à quelqu'un qui a vécu l'ignominie, l'extrême. C'était quoi le décor le décor physique, le décor visuel de l'horreur? Comment, quand vous lisez des romans, on peut être en accord avec ce genre de détails visuels, du senti, de l'odeur que malheureusement des jeunes comme Catherine ne peuvent pas avoir vécu?
C'est intéressant qu'on voulait être très normal, chaque jour guidé, avoir la vie comme les autres, mais c'était impossible. Les conditions physiques, l'appartement, on demeurait dans 5 chambres à Varsovie, ici il y a un avec le locataire, 2 demeurent dans la cuisine, 4 ma famille. Mais on pense toujours, ça va passer, encore un jour, mais ça durait plus qu'un jour, pour sûr. Et on ne s'était jamais sûr qu'on peut vivre. On n'était pas convaincu que notre fête, comment on dit, notre vie sera limitée comme les autres. Mais on ne pouvait pas voir l'espoir. Et quand on me demande comment je suis vécu, je dis grâce, c'était le miracle. Miracle. Et les gens qui étaient qui nous ont aidés. Et ils étaient super, c'était incroyable qu'est-ce qu'ils ont fait. Ils ne savaient pas qu'ils n'aient jamais fait quelque chose pour la gloire, pour l'avenir. Ils ont fait, puisque par exemple, un monsieur qui était très important pour nous a dit, je ne veux pas être le membre de cette madness, comment on dit,
la folie.
Alors ils sont devenus les justes, c'est une liste.
Mais c'est ça qui vous rattachait à la vie, Olga, c'est ce genre de petits détails, parce que les gens s'imaginent pas, hein, l'horreur quand on le lit dans les romans, quand on le voit dans les films qui durent 2 heures, c'est 2 heures, mais vous c'était 24 heures par jour, et puis il fallait recommencer la journée le lendemain.
Quand je pense que comment nous sommes survécus, qu'est-ce que nous a aidé, c'est difficile à poigner, à monter seulement un événement. C'était le miracle. Quand je vois ce que s'est passé, puisque on a découvert la place où nous étions cachés, l'homme qui nous étions au grenier pour 4 mois. L'homme qui est arrivé pour visiter la famille qui a nous caché, Il voulait entrer dans la salle de bain, mais mon père était là. C'était très rare qu'il pouvait être là, mais il était là. Alors ce monsieur revient à la cuisine, et il était le beau-frère de la dame, et il dit qui est dans la salle de bain. Elle dit, elle ne peut pas répondre, qu'est-ce qu'elle va faire, qu'est-ce qu'elle va dire. Alors il devinait tout de suite, il a dit, vous cachez les juifs, je vais à la police. C'était le relatif, comment on dit,
les proches.
Ok, je vais à la police et je vous dénonce. Alors les deux, c'était le couple qui nous a cachés, il dit, attends, il vient chez nous, ça veut dire un long corridor, nous sommes cachés, pas cachés, nous sommes être assis sur le lit, très tranquille, sans parler, la fenêtre est ouverte, mais on ne peut pas regarder s'il y a un rideau. Et il dit à mon père, nous sommes grand trouble, je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut faire. Mon père était dans l'armée polonaise, un officier, alors il avait un peu de un penchant de parler. Il dit, attends, je veux me... Il fait la avec quelque chose avec ses cheveux, et il va à la cuisine et il dit, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu veux aller à la police? Tu peux faire ça, mais un jour après la guerre, tu seras tué, puisque j'ai le contact, c'était vrai, avec les résistances polonaises, et tu seras tué puisque tu es collaborante.
Collaboratrice.
Ok. Mais justement, qu'est-ce que tu veux? Combien d'argent tu veux? Et nous n'avions plus d'argent de payer pour notre cachement, mais il y avait un monsieur qui travaillait avec mon père, avant la guerre. Et il a fait quelque chose avec les Allemands, il avait l'argent. Il a dit, je vais vous aider. Alors, ce mot était magique. Et il était à Varsovie, nous sommes à Ukraine, dans une petite ville. Et il envoie l'argent, ça veut dire mon amie, Eva, elle prend l'argent de Varsovie de M. Félix, elle porte chez nous, elle est blonde, elle est catholique, elle est très belle, et elle veut nous aider. Alors, un miracle. Alors, on a proposé à ce monsieur, combien d'argent vous voulez, on va vous payer. Il dit, ok. Alors, c'est un miracle aussi. Mais il pouvait aller à la police encore. Mmh. S'il voulait recevoir seulement 1 kilo de sucre et un morceau de pain, il y avait les autres qui ont fait ça, dénoncer les Juifs pour cette nourriture. Mais il a dit ok, et on a lui payé ce qu'il voulait, et on était tranquille. Alors, c'est un miracle pour moi.
C'est une succession de miracles comme ça qui ont permis à certains de survivre. Catherine Mavrikakis, c'est ça qui est fascinant dans votre livre, cette capacité de raconter le temps lancinant, le temps qui passe, le temps presque anodin, le temps banal dans cette ville. C'est un génie, parce que je demandais à Olga, puisque souvent on lit l'histoire en accéléré, on se dit, bah oui, c'est un roman, bah on aurait tous pu survivre, on aurait pu tous trouver des ressorts pour en sortir. Et vous, c'est ça le génie de ce livre, c'est de raconter justement ce temps qui est terriblement long et qui refuse de passer.
Le temps présent, vous voulez dire, c'est ça? Oui, je voulais montrer un personnage mon personnage Amy, cette jeune femme, donc qui a à peu près votre âge en fait, Catherine, et qui elle a hérité elle aussi de l'Holocauste d'une certaine façon. Et je voulais montrer comment elle n'est pas dans le temps présent, c'est-à-dire qu'elle est dans le temps du passé, un temps à la fois éternel et complètement éphémère. Hein. Et à un moment donné, quelqu'un m'a fait un compliment, m'a dit, je m'ennuie beaucoup dans ton livre. Et moi, j'étais très contente, parce que j'ai dit, c'est un peu ce que je voulais qu'on ressente. C'était quand même l'ennui de cette jeune femme par rapport à cette temporalité. Parce qu'elle a l'impression aussi que... Le personnage a l'impression que après ce qui a été vécu... il peut plus rien arriver. C'est pas qu'elle veut que quelque chose se produise, mais elle a l'impression que tout a déjà eu lieu et qu'elle n'est que dans l'après d'une catastrophe. Donc le temps ne peut être que celui de d'une
il n'y a pas d'après. C'est ça qui est un peu terrible dans ce roman, c'est qu'il n'y a pas d'après. C'est que ils vivent.
Vous avez raison. Oui.
Ils vivent hier comme ils y étaient encore.
Ben oui, en même temps. En même temps, elle n'y a pas complètement accès à ce qui a eu lieu avant. Elle le vit, mais sous un mode qui est, de non-maîtrise. C'est-à-dire qu'elle est complètement hantée par le passé. Elle est dans le passé d'une certaine façon, parce qu'on ne saura pas tout au long du livre si c'était des fantômes ou si, bon, ouais. Elle a rêvé ou si, bon. Elle est dans une temporalité où elle n'arrive pas du tout. Je voulais pas produire un discours sur l'Holocauste. C'était vraiment pas ça que je voulais faire. Je voulais montrer parce que je ne saurais pas faire ça. Je voulais montrer quelqu'un qui est hanté par ce passé-là et qui finalement et là. Bon, c'est peut-être j'ai choisi la facilité, mais peu importe si ce qu'elle imagine est vrai ou faux pour moi, puisque c'est la question de ce qu'elle vit, c'est les discours qui la traversent et qui sont plus ou moins dans la réalité. Donc, c'est-à-dire que ce que tout à l'heure, quand je vous faisais la différence entre l'historienne et l'écrivaine, pour moi, mon travail, bien sûr, j'ai quand même fait quelques recherches, mais je me permettais beaucoup, beaucoup de liberté parce que je n'avais pas à rendre compte. D'autres l'ont fait bien mieux que moi. J'avais plutôt à rendre compte d'une sensibilité qui était complètement sous l'emprise de quelque chose.
Mais pour écrire ce livre, comme disait Sonia tout à l'heure, est-ce que vous vous êtes approprié cette histoire? Elle est-elle vôtre de par ce fait même d'avoir osé l'aborder?
Non, pas plus que d'autres histoires. C'est-à-dire, c'est un sujet qui, pour des raisons personnelles, est très important pour moi. Il y a une autre histoire que je ne veux pas raconter qui fait que j'ai pu quand même écrire cette histoire, mais elle est importante dans ma biographie, mais je pense aussi qu'elle est importante, qu'elle a été très importante aussi dans ma formation, c'est-à-dire que moi, dans les années 60-70, quand je vais à l'école, on me parle de ça. Mmh. C'est ce qu'on me raconte, la Deuxième Guerre mondiale. Quand je fais de la philosophie, on me dit, il y a un impensable, c'est Auschwitz, on me parle d'Adorno, vous voyez. L'Holocauste a été important dans ma vie, oui, mais il m'a formé aussi ma génération d'intellectuels, c'est-à-dire que les gens qui sont nés dans les années 60 ont dû repenser à ça. Alors, je ne sais pas comment les intellectuels sont formés maintenant, grande question, je pense quand même que j'ai une dette qui est non seulement personnelle, mais qui est aussi intellectuelle.
Je vais arriver à vous, Sonia, tout à l'heure. 30 secondes, oui. Juste pour demander à Catherine, je me demandais en lisant ce livre encore une fois, je me suis dit, ben c'est terrible, j'ai adoré. C'est terrible à dire. Hein, est-ce que vous vivez la reconnaissance, le succès de ce livre avec une culpabilité? Est-ce que quand on se retrouve dans ce contexte où on se dit, ben il y a des gens qui applaudissent alors que je raconte quelque chose quand même d'indicible. Vous savez, comme le proverbe chinois, quand le sage pointe le ciel, l'idiot regarde le doigt. Est-ce que vous avez l'impression qu'on a trop regardé le doigt, le style, et très peu peut-être regardé aussi ce que vous racontiez derrière?
J'ai pas l'impression d'avoir fait quelque chose de très méchant ou de très provocateur.
C'est d'autant plus problématique parce que je vous dis, j'ai ri à quelques reprises. C'est terrible.
Je suis sensible à beaucoup de choses, mais même récemment, je vois un livre qui est sorti sur la fascination des bourreaux. Pour dénoncer la fascination des bourreaux dans la littérature et les films contemporains. Et moi, j'ai pas parlé de bourreaux. Bon, mais je suis pas en train de me défendre du tout d'ailleurs. Mais je pourrais même défendre ceux qui, parce que j'ai l'impression que la littérature, malgré tout, pour moi, n'est pas du domaine complètement de l'éthique. C'est-à-dire que, bon, mon livre est plein de bons sentiments, malgré moi, peut-être, mais j'aurais pu écrire un livre plein de mauvais sentiments et je m'en sentirais pas complètement coupable. C'est-à-dire que j'ai l'impression quand même que la littérature est un espace qui se permet des choses et je ne pense pas que la responsabilité est la même dans un livre de fiction que dans la vie.
Je vous parlais plus de l'accueil hein, plutôt que de ce qui vous animait vous en écrivant ce livre, parce que l'accueil c'est, je veux dire, est-ce que vous scrutez le regard de vos lecteurs et lectrices en se disant mais il faut pas qu'elle rie, il faut pas qu'elle se plaise, il faut pas qu'elle aime ce livre, j'ai envie de raconter des sentiments terribles.
J'ai pas l'impression d'avoir été tant luxe, là, j'ai l'impression de me fantasmer un public de lecteurs, mais non, je me sens pas du tout coupable, mais c'est vrai que j'aime pas les livres faciles, c'est vrai que ce que vous disiez tout à l'heure était juste, moi j'aime pas, je lis rarement pour me divertir, je regarde des films pour me divertir, mais je lis rarement pour me divertir parce que aussi c'est mon métier de lire, mais j'aime pas la facilité et puis je pense pas que, mais je peux aimer aussi, j'aime beaucoup Maus de Spiegelman qui arrive quand même à nous faire beaucoup rigoler sur l'Holocauste, il faut le dire, c'est un livre que j'aime beaucoup et donc je pense qu'on peut rigoler tout hein, et là-dessus je me sens pas du tout pieuse.
Ouais. Sonia, avant que vous posiez la question, justement vous comme lectrice quelle approche vous avez à cette histoire, parce que ce dont on est en train de parler avec Catherine, est-ce que il y a une part de gravité que vous imposez en tant qu'héritière malgré vous de cette histoire?
Non. En me préparant pour cette soirée, j'ai lu des textes de Nadine Fresco. Nadine Fresco, c'est une historienne qui est directrice de la revue Le Genre Humain, qui a beaucoup travaillé sur cette notion de transmission. Puis elle a un texte qui s'appelle « La mort est-elle héréditaire ?» Précisément.
En fait, ça, la mort est-elle héréditaire ?
Sur cette question de la Shoah. Ouais. Vous savez, moi, je suis à moitié séfarade et à moitié ashkenaze. C'est-à-dire, je suis juive, donc, de Méditerranée du côté de ma mère et de Pologne du côté de mon père. Et c'est vrai que je suis heureuse d'être née de cette rencontre. Une des raisons, c'est parce que l'héritage face à la Shoah m'a été, je dirais, plus facile. Sinon, c'eût été plus dur. Et Nadine Fresco répond à la question « La mort est-elle héréditaire ?» et ça rejoint quelque chose de votre ouvrage en disant qu'elle est amenée à se poser la question, elle qui est fille de déportée, lorsqu'elle a un enfant à son tour. Et c'est vrai que le livre, le récit, il change dès que cette fille-là, qui s'appelle Ciel, existe. Il y a quelque chose qui vient rompre. Alors ça rejoint votre... Elle écrit un livre, elle ne va pas être coupable s'il y a un accueil. Maintenant, la question que vous posiez au départ, c'était est-ce qu'on peut faire de la fiction autour de la Shoah ? Alors, cette question, elle a été abordée au travers, par exemple, du cinéma. Quand Spielberg avait fait la liste de Schindler, Lanzmann, qui est cet homme extraordinaire, qui a fait donc ce film Shoah, s'est hérissé. Parce que des fois, quand on a le sentiment de le devoir de l'héritier, parfois on est un peu intransigeant. Et bien, qu'est-ce que vous voulez ? Si Spielberg, ça arrive à faire prendre conscience de certaines choses de la Shoah, eh ben très bien. J'aurais pas le même avis par rapport au film de Benigni qui s'appelle Vive la vie, parce que lui, il a essayé de reconstituer l'univers concentrationnaire. Spielberg, lui, c'était l'histoire, finalement, comme vous le disiez tout à l'heure, d'un juste, de quelqu'un qui s'est... Madame évoquait cette figure, de quelqu'un qui a dit non et qui a essayé de faire quelque chose pour sauver des Juifs. Je pense que reconstituer l'univers concentrationnaire, que ce soit au cinéma, au théâtre, c'est un peu délicat. À partir du moment où ça passe par la visualité. Mais quand ça passe par les mots, ça veut dire qu'on va soi-même construire sa propre vision en lisant un livre. On a d'autant plus de liberté. Alors, tout ce qui peut participer à faire avancer la conscience humaine, par quelque moyen que ce soit, dans une histoire qui appartient à l'humanité, parce que ça travaille les inconscients, à telle enseigne qu'une jeune fille de 17-18 ans vient nous parler de ça, maintenant, comme si... Enfin, je suis en train de lire votre livre, hein, je l'ai pas fini, mais c'est remarquable. Donc voilà, c'est pour tenter de répondre un peu à votre question.
Et alors, il y a quelque chose, vous le dites si bien, Sonia, mais il y a quelque chose qui est très vrai dans votre livre, Catherine, et probablement que Olga confirmera, c'est cette part de culpabilité que tous les survivants portent par rapport. Et c'est vraiment terrible parce que c'est une inversion de responsabilité, de culpabilité, parce que a priori les salauds sont de l'autre côté, mais cette conscience que on mérite pas la vie d'avoir survécu, et ça vous le racontez super bien dans ce livre, et c'est quelque chose de très présent, de très lancinant dans ce livre.
Vous le dites à la page 44. Oh, la punaise. Honte d'exister.
Ouais, la honte d'exister.
Oui, je sais pas en fait si c'est commun à tous les survivants, c'est-à-dire oui, on le dit, mais je ne sais pas parce que j'ai connu des survivants qui m'ont dit qu'ils n'avaient pas la honte. Par contre, je pense que moi je voulais montrer la honte de quelqu'un qui ne l'a même pas vécu, en fait, qui a survécu, qui n'a pas survécu, qui a survécu à l'histoire, qui a survécu le fait qu'on soit encore là après 45, d'une certaine façon. Donc, je voulais montrer cette honte qui est complètement irrationnelle, en fait, parce que pourquoi les choses s'arrêteraient, etc. Mais cette idée de... est-ce qu'on peut continuer après? Argument qui s'est posé et qui se pose, qui s'est longtemps posé et qui des fois réapparaît dans nos fantasmes d'apocalypse. Hein. Mais je voulais montrer donc cette honte d'exister non pas chez les survivants, mais chez les générations qui suivent. D'accord. On a beaucoup parlé de la honte des Allemands, des petits-enfants, des officiers SS, etc. Et je voulais montrer un peu aussi l'autre honte, mais une honte intergénérationnelle. Aussi.
Je vais à l'extrême génération, Catherine Fetz. Vous, votre rapport à cette histoire, est-ce que c'est une histoire de honte, de douleur, d'acceptation?
D'abord, j'aimerais dire une petite affaire. Je sais que avant d'avoir écrit le livre, j'osais pas dire que j'étais juive. Je me souviens pas d'avoir passé mon temps au primaire à dire, tu sais, je voyais la personne dire je suis québécoise ou je suis arabe ou même je suis allemande. Mais il y a personne qui disait j'étais juif. Et là, j'étais comme je suis russe ou je suis canadienne. Mais j'ai jamais dit que j'étais juive. D'une certaine manière, ce livre-là m'a permis d'accepter qui je suis. Donc maintenant, quand on me pose la question, je dis oui, je suis russe et oui, je suis canadienne, mais je suis aussi juive. Donc, ça peut donner de la honte à certains, mais moi, au contraire, je crois que ça m'a enlevé une honte. Je sais même pas si c'est une honte, mais c'est peut-être... il reste que, même si la guerre est pas près de recommencer, j'espère, et que c'est quelque chose qui, j'espère, va jamais recommencer, il reste que... Moi, personnellement, à 11 ans, j'avais peur de dire que j'étais juive. Parce que peut-être qu'il y aurait quelque chose. Parce que peut-être que quelqu'un est antisémite dans mon entourage et que ça va virer quelque chose de mauvais. Donc,
c'était plus la peur ou la honte, en fait? Parce que oui, avoir peur qu'il y ait un antisémite dans la salle, qu'il y ait quelqu'un qui ait envie de rééditer l'abomination, c'est une chose. Mais la honte, c'est autre chose.
Je sais pas. Je crois pas que c'était de la honte, parce que c'était pas le juif qui tuait. So, je verrais pas pourquoi j'aurais honte. Mais j'avais peur.
Je peux poser la question, Olga, si vous permettez, parce que vous êtes probablement celle qui a été le plus directement proche de cette histoire. Est-ce que ça, c'est des notions que vous avez senties, que vous avez connues, ces notions, je sais même pas si on peut utiliser le mot de honte, mais longtemps, les survivants ont été dans le silence, dans le refus de raconter.
Non, ce n'était pas honte, mais c'est je ne sais pas qu'est-ce que c'est, c'était, on avait encore peur. Et alors je suis arrivée, je voulais étudier, je suis arrivée dans une autre ville et je vais voir les robes, les choses que je n'ai pas vues pendant 5 ans de l'occupation. Et j'arrive à une place qui est un marché, oui, et je vois une dame, elle m'a dit, elle m'a dit « Hello, comment ça va? Et toi, où es-tu sauvée ?» Je s'enfuis, j'ai quitté. C'est toute la passé encore n'est pas le passé. C'est ce qui s'est arrivé maintenant. Alors on a fermé la bouche et on ne pouvait pas parler de ce sujet. Seulement parmi nous. Je suis venue au Canada, j'ai trouvé un groupe de femmes qui étaient à Auschwitz ou dans les autres camps, et on se rencontrait chaque soirée, on était assis et on répétait toutes les choses qui sont arrivées en passé. On doit l'oublier, on ne peut pas oublier. 60 ans après, quand je rencontre ma sœur, il n'y a pas une rencontre que quelque chose ne représente
pas,
presque. Ouais. Et on parle, et on discute, et on se rappelle, et on finit en disant que c'était un miracle.
Oui. Et est-ce que vous vous rappelez exactement à quel moment votre parole a été libérée? J'ai rencontré plusieurs survivants qui m'ont dit ben, c'est au moment où on a arrêté Eichmann et qu'il a été amené devant la justice que soudain on s'est dit ben, voilà, le coupable est de l'autre côté, donc nous maintenant on s'aurait approprié la parole. Est-ce que ça a été...
Est-ce que je comprends bien quand j'étais libérée?
Quand est-ce que vous avez senti que vous pouviez raconter votre histoire, que vous pouviez en parler librement?
Oui. Je me rappelle pas exactement la date, mais quand je suis arrivée ici, peut-être, il y avait aussi... Non, c'était difficile. Pourquoi? Puisqu'on a échangé les lettres avec la famille ici. Alors ma tante a écrit « Viens », puisqu'ils ont envoyé les visas. « Viens quand tu viendras ». On a commencé à parler de tous les événements de la guerre. On n'a pas commencé quand je suis venue. Il avait peut-être peur d'attendre les histoires tristes, je ne sais pas. Il y avait seulement, je me rappelle, deux personnes qui ne connaissaient pas bien, mais ils ont dit « Ah si ». Et raconte-moi qu'est-ce qui s'est arrivé. Alors c'était rare, c'était difficile. Jusqu'à le temps, il y avait un programme à télévision, j'ai vu une fois, qu'il y avait un psychiatre qui a observé que les femmes spécialement les femmes qui ont visité ce médecin, psychiatre, étaient dépressées, et il a formé une décision de voir un groupe au lieu de voir individuel qui était dépressé. Et c'était tout survivant de Shoah, de Holocauste. Alors, ça c'était le commencement. On a commencé à publier les livres, on a commencé à parler un peu jusqu'à ici. Aujourd'hui, alors c'est populaire, où on se tourne, on voit. Mais je veux aussi vous dire que le premier chapitre que je lis, le livre, mais c'est intéressant puisque les deux filles se rencontrent. Une a 10 ans, l'autre 15 ans. Et comment elles commencent à former une amitié? Est-ce que tu es seule? Et toi? Oui, mais j'avais la sœur et j'ai perdu la sœur. Et c'est correct? Oui, je me rappelle bien. Alors, c'est très caractéristique que deux jeunes filles qui sont toutes seules, on ne sait pas qu'est-ce qui arrive. Après, il y a les chiens, elle doit courir, se cacher, et tout ça. Mais une raconte l'histoire à l'autre. Tu es toute seule? Oui. Mais après, elle dit, non, j'avais la sœur, elle est perdue. Je ne suis pas est-ce qu'elle est perdue. Et encore, l'histoire entre les deux qui se promènent, on ne sait pas qu'est-ce qu'elle fait. C'est caractéristique.
C'est un compliment extraordinaire, ça, que vous recevez, Catherine, hein, de ceux qui l'ont vécu. Qu'est-ce que vous voulez dire, Sonia?
Par rapport à la transmission, dans votre cas, donc, c'est votre grand-mère, en fait, qui vous a transmis. Dans le cas de votre livre, c'est un grand silence jusqu'à ce que la protagoniste se rend compte de son histoire. Tout d'un coup, une de ses tantes. C'est-à-dire que le silence, la non-histoire, ça se transmet aussi. Ça s'appelle le refoulement. C'est pas parce qu'on dit rien qu'il n'y a rien, surtout quand il y a eu quelque chose. Et cette femme souffre de ça, de savoir qu'il y a quelque chose dont on ne lui dit rien, au point d'être obsédée, d'avoir ces nuits terribles. Vous parliez de sentiments de peur, de honte. Il y a un autre sentiment qui scande votre ouvrage, c'est la colère. Et on a l'impression que ça va s'apaiser au fil des pages. Jamais. Chaque fois, vous revenez au travers... Enfin, l'héroïne revient. Il y a cette colère. Et ça ne s'apaise pas. C'est comme s'il n'y avait pas de consolation. Alors,
Ouais, c'est un livre très enragé, effectivement.
C'est un livre enragé. Vous avez eu ce sentiment-là. Alors, juste par rapport au ciel, donc elle engueule le ciel constamment. Et puis aussi, il y a un passage par rapport à ce qu'on voudrait parfois s'imaginer être une consolation. Ça serait la Bible. Et elle dit comme ça, la Bible est une foutaise. Elle ne console de rien, surtout pas du ciel que Yahvé voit comme son royaume et qui n'est que pourriture. C'est ma colère à moi qui s'enflammera. C'est elle qui brûlera les enfers que nous habitons depuis déjà trop longtemps. Il n'y a rien pour moi là-dedans dans la Bible. Je suis à l'image de ce monde, une damnée. Il ne me reste qu'à faire advenir le néant pour nous tous. Il arrive. Et puis vous dites quelque part, je comprends pourquoi j'ai jamais lu la Bible. dans ce même passage. Ouais. Et aussi les invectives par rapport au ciel. Vous dites, la seule chose à faire, c'est de lui envoyer un Boeing pour transpercer. C'est pour ça que je dis que le ciel, c'est un des personnages, le ciel physique, métaphysique. Alors, bien sûr qu'il y a beaucoup de sentiments. Moi, pour moi, c'est cette rage. Est-ce que vous êtes apaisé quand vous avez fini d'écrire le livre?
Non, pas du tout. Je ne suis pas du tout apaisée. C'est sûr qu'il y a de la rage en moi. Il y a de la rage contre tout, d'ailleurs. Je suis toujours en colère contre tout ce qui se passe. Donc, le monde me donne beaucoup de raisons d'être en colère. Et tout à l'heure, vous avez dit, nous sommes tous juifs. Ben, j'avais envie de dire par provocation, moi, je ne le suis pas. C'est-à-dire, je ne sais comment dire. C'est-à-dire que je crois que c'est vrai qu'il y a, par la littérature, une identification de nous tous, hystérique à beaucoup de choses. C'est-à-dire, nous pouvons être noirs dans le livre, nous pouvons être juifs, nous pouvons être ceci. Et la littérature permet ça. Il y a même un côté peut-être même pédagogique de la littérature. Par contre, quand je vais acheter quelque chose, je vois bien que je ne suis pas noire, parce que souvent on me reçoit parce que je suis blanche. Bon, s'il y avait un gouvernement fasciste demain, on remonterait dans ma généalogie et peut-être qu'on ne trouverait pas des juifs parmi mes grands-parents, et donc bon, là je serais épargnée d'être juive. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne crois pas, comment dire, à... Oui, j'ai un peu peur des bons sentiments face à une réflexion comme ça. C'est-à-dire que je crois que le politique, j'ai envie aujourd'hui, tout de suite, de différencier d'une certaine façon la littérature, qui doit être ce qu'elle est, et qui doit me permettre de dire oui, je suis juive, ou oui, je suis ceci, ou oui, je suis cela, et en même temps le politique, où là, je devrais prendre parti d'une autre façon que si j'étais noire ou que si j'étais juive parce que mes parents l'étaient. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai l'impression que je voudrais maintenir l'espace littéraire. C'est-à-dire que, et c'est pour ça que je me sentais pas coupable pour répondre à votre question, que j'avais le droit dans l'espace littéraire d'avoir une esthétique, d'essayer de faire passer quelque chose autrement. Mais dans la vie, je prendrais des positions tout à fait différentes que celles que je prends dans mon livre, et je vous dis simplement, parce qu'on parlait de rage, et des fois je suis un peu enragée contre moi de céder à mes bons sentiments, parce que là je me dis, il faut quand même être un peu plus dur que je ne le suis.
Moi je trouve pas que votre livre il est rempli de bons sentiments.
Pas du tout, c'est plutôt le contraire.
Le
livre, oui, mais...
Donc, rassurez-vous sur ça.
Le discours que je peux tenir sur une espèce de communauté où on serait, on pourrait tous s'identifier, vous voyez, c'est plutôt ça. C'est pas mon livre. Moi, dans mon livre, je peux être beaucoup plus violente que dans la réalité, fort heureusement. Mais je veux dire, c'est le discours que je peux tenir qui me fait un peu peur. Vous voyez, c'est plutôt ça.
Alors moi, je voudrais préciser quelque chose. Quand j'ai dit « nous sommes tous des juifs allemands », c'était en le situant dans le contexte où on avait insulté Cohen Bendit. Voilà, non, parce que c'est important, bien sûr, de garder ces biographies, bien que parfois c'est très troublant. Il y a un passage, par exemple, où vous racontez comment elle retrouve des papiers où la généalogie s'arrête. Et moi, ça me rappelle un papier que j'ai trouvé où la généalogie du côté paternel s'arrête. Il n'y a plus qu'une branche, c'est celle de mon grand-père et de mon père. Et encore, je l'ai dit, mon grand-père était déporté. Et je pense qu'effectivement, le génie de l'écrivain, c'est ces passages d'âme. C'est comme ça. Maintenant, à part ça, oui, vous êtes qui vous êtes dans votre histoire. Et il y a, comment dire, il y a... Je comprends votre révolte contre des bons sentiments qui répondraient à un prosélytisme un peu qui n'a pas lieu d'être. Mais qu'est-ce que vous voulez? Quand moi je vous lis, je ne connais pas votre histoire. Vous dites qu'il y a un texte qui se cache derrière l'histoire, très certainement, et il vous appartient. Donc je ne sais même pas, vous êtes juif, pas juif, mais ce livre, je m'en fous. C'est-à-dire quand je le lis, c'est un livre qui parle de la comment ça se transmet. C'est la même chose avec votre livre, Catherine, aussi. Comment tout ça passe? C'est voilà.
Et avant de passer à la salle, parce que j'aimerais bien que vous interveniez pour que ce soit un dialogue avec vous tous, Catherine, j'avais juste envie de vous entendre parler de la question d'âge et la Shoah et l'Holocauste. Votre personnage a un âge où on se dirait, j'ai commencé d'ailleurs avec ça, avec vous, Catherine Schwetz, en disant, vous auriez dû vous préoccuper d'autre chose, des amourettes, d'école et de lycée. Et on a souvent cette impression que cette histoire, il faut la raconter quand on a la maturité de la raconter ou de la comprendre. Or, Olga sera témoin, c'est une histoire qui a été vécue autant par des enfants que par des petits-enfants, etc. Est-ce que, pour vous, ça a été une préoccupation de vous dire il faudrait qu'elle ait quand même une certaine maturité, mon personnage, pour la vivre, pour la raconter, pour la porter cette histoire ?
La maturité de mon personnage, j'ai l'impression que c'était tout simplement que je me disais que c'était au moment de l'adolescence qu'elle pouvait vraiment se poser la question de ses origines, que là il y avait vraiment un questionnement qui était assez fort. Mais je vais vous répondre par une anecdote, parce que c'est ça à quoi ça me fait penser. Je suis allée au musée de l'Holocauste à Paris et j'entre avec ma fille qui avait à l'époque 5 ou 6 ans et on me dit il serait mieux que votre fille n'entre pas parce que il y aura des images très difficiles, etc. Et je leur ai dit mais il y avait des enfants dans les camps de concentration, et j'ai dit on est très loin de là, hein, on est à Paris dans un musée, et donc ma fille est entrée là, et ce qui était très étonnant parce qu'on regardait un peu, on essayait de voir, et ma fille ne voyait que ce qu'elle pouvait voir, c'est-à-dire elle comprenait certaines choses, il y a des choses qu'elle ne pouvait pas comprendre, je vais vous dire d'une certaine façon, même ma vision de personne de 50 ans, j'ai l'impression que je suis aussi bornée ou limitée que ma fille. C'est-à-dire qu'il y a des choses que je ne peux voir, que je ne vois que parce que j'ai 50 ans. Et mon regard n'est pas très, très grand. Mmh. Et elle voyait ce qu'elle pouvait voir à 5 ans à l'époque. Mais vous voyez ce que je veux dire, j'ai l'impression que, de toute façon, il n'y a pas un regard qui soit total là-dessus, qu'il y a, bien sûr, des prises de conscience, mais des prises de conscience différentes, mais qu'il n'y a pas la totalité de ce savoir, de ce non-savoir-là qui est possible. Donc, j'aimais bien que mon personnage soit à la fois quelqu'un d'enfant, c'est-à-dire qu'elle se prenne pour une adulte ou qu'elle ait des réflexions d'adulte. Ça me permettait de mettre cette dialectique en place.
C'est un personnage en transition et voilà. Puis c'est assez troublant parce que quand elle raconte sa vraie vie de jeune femme, de femme en devenir, la menstruation, etc. En même temps, on fait un parallèle allégorique avec la grande histoire avec un grand H. C'est vachement troublant comme style d'écriture.
Je ne sais pas quoi vous répondre.
Catherine, est-ce que vous, ça vous agace qu'on vous dise vous êtes trop jeune pour écrire sur une telle histoire?
Oui.
Très bien. Ça le mérite d'être clair.
Parce que je ne serais pas d'accord avec ceux qui disent que la maturité vient avec l'âge. Je trouve que la maturité vient avec les événements que tu as vécu dans ta vie. Et donc, une personne qui a vécu l'Holocauste à mon âge, si je rencontrais cette personne à cet âge-là, serait 100 fois plus mature que moi. Ou admettons, je prends un autre exemple, j'ai 50 ans, mais j'ai pas vraiment vécu quelque chose dans ma vie. Or, il y a quelqu'un qui à 15 ans a déjà tout vécu. Qui sera plus mature? Donc, encore une fois, âge, maturité.
Ouais. C'est exactement ce que disait Elie Wiesel, hein, que quand on est tous sortis de ces camps, on était devenus des vieilles personnes, des vieilles âmes. Et c'est vrai que dans le regard de même des enfants qui sortaient des camps, on avait cette conscience-là qu'ils avaient vécu l'indicible, donc ils avaient pris plusieurs siècles de sagesse et peut-être de douleur aussi.
Ouais.
Ouais. Allez, tiens. On va ouvrir à vous. Je ne sais pas si certains d'entre vous avaient eu le bonheur, comme moi, de lire les deux livres des deux Catherine. Si vous en avez ramené des réflexions. On avait demandé à mes invités de faire un exercice. Quel livre d'histoire, quel roman, quel film, etc. Bon, enfin, on vous épargnera tout ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie d'intervenir? Allez-y. Bonsoir. Et là, l'âge de la fermeté, Audrey, hein, c'est...
J'avais parlé de honte, de culpabilité. Il y a un sentiment qui est là et dont on ne parle pas. Qu'on ne parle pas dans la littérature et qui explique un peu le silence de tous ceux qui ont vécu l'Holocauste. C'est le sentiment d'humiliation subie, d'humiliation qui vous rejette au fin fond d'un gouffre. Il n'y a que deux solutions à cela, ou le suicide, ou la colère. Et je comprends très bien la réaction que vous avez en disant que votre livre est un livre de colère. Et je comprends très bien quand vous dites, au fond, je ne me sens pas juif. Je ne me sens pas juif ou juive parce que ce sentiment d'humiliation totale, anéantissant, vous ne pouvez pas le comprendre. Ceux qui sont sortis des camps étaient silencieux parce qu'ils devaient se rebâtir, parce que la seule solution peut-être pour se rebâtir, c'était d'oublier. Parce que n'être rien, d'être moins que rien, d'avoir été méprisé au point de ne plus exister, de ne plus avoir de nom, de ne plus être rien, est quelque chose qu'il faut surmonter, qui est épouvantablement difficile à surmonter. Je crois que cet aspect-là n'a pas été suffisamment abordé parce qu'il est tellement difficile à aborder que ceux qui ne l'ont pas vécu peut-être n'ont pas les mots et que ceux qui l'ont vécu n'ont pas trouvé les mots pour le dire. Et je pense que c'est quelque chose dont il faut se rendre compte. C'est un monde oublié, celui de la Shoah, de l'humiliation. Mais je crois que cette même humiliation réside encore et existe encore pour des tas d'autres peuples, pour des tas d'autres gens, dans des tas d'autres conditions, et qui explique mieux que tout, à mon sens, et la révolte, et la rage, et le profond désespoir.
Restez là 5 secondes, s'il vous plaît, parce que Catherine vont répondre à ça, mais j'avais envie de vous entendre aussi par rapport à ce sentiment-là. Est-ce qu'on peut se reconstruire avec ce sentiment de reconstruction? Je ne sais pas si les deux Catherine, en écrivant leur roman, avaient envie d'avoir un exercice prophylactique de rebâtissement de soi, mais est-ce que n'est-ce pas là le sentiment justement dont il faille se défaire pour pouvoir revivre, quitte à avoir la colère, quitte à avoir la honte, mais l'humiliation, le déni de soi, est-ce que c'est pas la première chose dont il fallait se défaire en sortant des camps?
C'est ce que les survivants ont fait. Ils se sont tus, ils ont oublié. Ils n'ont pas eu recours à des masses de psychologues. Il n'y en avait pas, on ne referait pas cette solution-là. Et je ne pense pas que les psychologues peuvent offrir d'ailleurs une solution. C'est l'approfondissement en soi. Jeter une taie sur ses yeux et dire, quand je les rouvrirai, c'est un autre monde que j'affronte.
Catherine Mavrikakis, pas évident de passer après ça. Dans cette colère, moi j'ai senti ce sentiment d'humiliation aussi. C'est un arrivé à envier cette sœur qui n'a pas existé, qui est larve, qui est... Il y avait un peu de ça que vous aviez envie aussi de raconter.
Oui, mais je ne sais pas, je pense que vous avez raison, monsieur. Je pense que je ne peux pas témoigner de ce que je ne connais pas, que je peux sentir par moment dans certains discours, par moment dans certains textes, mais qui passent de façon tellement fragile. Et je ne pense pas que par l'écriture, je puisse retenir ça ou vouloir même le retenir. Par contre, ce que vous dites, ce à quoi j'ai accès, c'est à la colère et à cette idée de suicide, à ce désespoir. Je peux peut-être pas toujours sentir bien la cause, mais je peux voir les effets. Et le sentiment de désespoir, j'ai beaucoup voulu le montrer dans mon texte, c'est-à-dire que quand elle n'est pas en colère, elle a envie de se suicider ou l'inverse. Hein. Et je pense à beaucoup d'écrivains qui se sont suicidés justement, parce que moi, j'ai un rapport aussi littéraire à et je pense à Jean Améry, je pense à Primo Levi, etc. Quand je les lis, parfois, je me dis, j'ai envie de leur dire, soyez en colère, ne vous tuez pas, soyez en colère. Et je pense que ce que vous dites, il y a quelque chose de très vital dans cette colère, mais aussi de très destructeur, et c'est ce qui reste. Mais je ne peux juste que vous entendre, et je parle, mais c'est pour me taire.
Il y a un rapport peut-être bancal à faire, l'humiliation et puis la colère qui est portée aussi par l'écriture, une marque indélébile que, vous le savez, ceux d'entre vous qui avaient été ces numéros qui étaient tatoués, est-ce que ça... quand vous approchez de l'écriture, des textes qui restent, est-ce que vous avez conscience aussi, est-ce que vous avez le sentiment que les marques aussi que vous portez, ça ressemble un peu à la littérature de l'humiliation?
Non, je ne pense pas. Je pense que le sentiment qu'on peut transmettre, qu'on peut faire comprendre, doivent retrouver dans la personne qui lit ou qui écoute quelque chose qu'elle a vécu. On ne peut pas expliquer la couleur à un aveugle. Or, l'humiliation que les gens qui ont passé la Shoah ont vécue est au-delà de ce qui peut être expliqué. Non, c'est la couleur pour l'aveugle et ça ne passe pas.
Merci. Catherine Schwetz, j'aimerais bien vous entendre là-dessus parce que encore une fois, il y a tellement de générations qui vous séparent de cette histoire, mais en même temps, vous avez réussi dans ce livre, à travers ces nouvelles, de vous réapproprier la proximité. Est-ce que ce sentiment-là, vous avez été capable de le retrouver quelque part ?
Lequel ?
Celui de l'humiliation.
Je voulais pas que mon livre traite principalement de la colère ou de l'humiliation ou du désespoir. Parce que, de un, c'est vrai que c'est tellement loin de moi que c'est quelque chose que j'ai pas vécu, que je peux pas en parler facilement et j'aurais trouvé ça irrespectueux aux gens qui l'ont vécu d'en parler avec une telle facilité. Mais ce que je me suis dit que j'aurais pu faire, et c'est ce que j'ai fait, c'est parler des gens qui ont aidé pendant la guerre. Parce que je trouve que c'est quelque chose qui est trop souvent oublié. On parle tout le temps de ceux qui insultaient, de ceux qui tuaient, de ceux qui condamnaient, mais très rarement, j'entends les gens qui parlent de ceux qui ont aidé au péril de leur vie, qui ont aidé, posé un geste, sauvé des milliers de personnes. Donc, mon livre, j'ai décidé de plutôt parler des personnes qui ont aidé et de lancer comme un message d'espoir. C'est un message que, même dans le pire des événements, dans la plus terrible des catastrophes, l'être humain peut être bon, peut aider, et il y a quand même comme une lumière, peu importe la noirceur.
Il y a un film de Marek Alter qui s'appelle Tzedek, où il a décidé d'interviewer des gens qui ont aidé, y compris des Allemands qui ont aidé.
C'était dans la foulée de son livre La Force du Bien.
Peut-être, ouais. Oui, sans doute. Et donc, en particulier des Allemands qui ont aidé à Berlin. Et alors, quand il pose la question, qu'est-ce qui fait que vous avez fait ça, le plus stupéfiant, ce qui revient le plus souvent, c'est des gens qui disent, mais qu'est-ce que j'aurais dit à mes parents si je n'avais pas fait cette chose-là? Donc, voilà, là aussi, c'est un exemple de la transmission. Et aussi, dire quelques mots après l'intervention tout à l'heure, c'est que on a aussi des exemples de gens, là, il y a Tchepak qui est mort, qui a un prix Nobel, ou Cyrulnik, qui parlent de la résilience. Ce sont des gens qui ont vécu cette période-là. Et donc, ils viennent aussi témoigner de ça. Ouais, c'est tout ce que je voulais dire.
Allez-y.
Quelques mots au sujet de... Ok. Quand je suis mariée, j'avais 3 enfants et jamais le moment de le dire, assieds-toi, je vais te raconter mon histoire. Et jamais directement comme un professeur d'enseigner le Holocauste. Mais je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, il y avait toujours quelque chose que j'avais dit. Puisque quand je demandais à mon mari, parfois il était canadien, est-ce que tu connaissais assez de Holocauste? Mais oui, pas seulement de moi, mais on a lu beaucoup de livres. Les livres étaient toujours empruntés de la bibliothèque Holocauste, toujours intéressés moi. Et peut-être c'était comme un osmose, vous savez, les enfants aussi. En résultat, le plus âgé, le oldest, oui, il est le journaliste et aussi il fait les documentaires. Alors, au Radio-Canada et au CBC, il y a beaucoup de programmes qu'il a publiés. Récemment, c'était « Love, Hate and Propaganda ». Je ne sais pas comment c'était traduit. L'autre, le plus jeune, a écrit la pièce de théâtre « Hannah Suitcase », la valise de Hannah. C'était produit dans toutes les grandes villes des États-Unis et aussi au Canada, au Toronto, pour les enfants. Ils voulaient éduquer les enfants et on a discuté aux écoles et tout ça. Alors, pour moi, c'est absolument important que ma famille et les autres qu'on connaît qu'est-ce qui s'est arrivé. C'est difficile à parler. Quand je rencontre les enfants dans notre musée, j'ai dit, la première phrase est « N'essayez pas de comprendre tout, c'est impossible. » Même pour nous qui ont survécu, comment c'était possible? Pourquoi c'était comme ça? Comment dans le monde qui était généreux et beaucoup de démocratie, quelque chose comme ça était possible? Mais c'est une autre histoire. Alors, merci.
Allez-y, madame.
Ma question est pour Catherine. J'aimerais savoir, qu'est-ce qui t'a poussé à écrire le livre? Qu'est-ce qui a fait que t'as arrêté d'avoir peur et que t'as trouvé le courage d'écrire le roman?
Bonne question. Tout d'abord, j'aime pas ça avoir peur. S'il y a un obstacle, j'aime ça le surmonter. Et je me dis que quand il y a quelque chose qui siège aussi longtemps à l'intérieur de toi, c'est normal que ça sorte. Puis, je suis contente que ça soit bien sorti, par contre, parce qu'il y a des personnes chez qui ça sort très mal. Ça, mettons, on revient même au suicide, ou à la dépression, ou aux maladies. Je trouve que le fait d'avoir accepté et d'avoir pu écrire et en parler, c'est une des meilleures choses qui soit arrivée. Et pourquoi je l'ai fait? Je veux dire, ça, c'est quelque chose que je ne saurais peut-être pas moi-même jamais.
Quel est le plus beau compliment que vous avez reçu depuis la parution de votre livre, Catherine?
Il y a 15 minutes.
C'était lequel?
C'était celui où on me disait, celui où Olga, survivante, est si présente, qui m'a dit qu'elle se retrouvait dans mon livre et que dans une de mes nouvelles, la première, Abigail, Elle trouvait que dans les dialogues, j'avais présenté correctement le sentiment et les émotions et comment les gens se sentaient. Et je trouve que c'est le meilleur compliment parce que c'est très délicat de toucher à une affaire qui est tellement loin de toi-même et qui a amoché tellement de personnes. Le fait que je puisse en parler et que quelqu'un qui l'a vécu puisse me dire que je l'ai fait avec respect et que je l'ai fait correctement, c'est le meilleur compliment que je puisse avoir. Parce que en écrivant le livre, ce que je voulais d'abord, c'est bien sûr transmettre un message d'espoir, mais je voulais surtout avoir du respect envers les gens qui ont vécu l'Holocauste. Et selon moi, si on revient à la question de base de cette causerie, c'est qu'est-ce qui, selon nous, de quoi devrait avoir l'air la fiction, l'Holocauste dans la fiction? Et moi, ma réponse, ça serait le respect. Il faut aborder ce thème-là avec respect. Parce que ceux qui font juste en parler pour en parler ou en parler trop facilement, je trouve que c'est la pire chose que tu puisses faire. Manquer de respect envers les personnes qui l'ont vécu ou qui l'ont encore à l'intérieur de soi, même s'ils l'ont jamais vécu, c'est le plus grand manque de respect que tu puisses avoir envers une personne. Donc, dans la fiction, un des livres que j'ai le plus aimé, c'est Le Grand Cahier d'Agota Christophe. On l'a lu l'année passée, à l'école. Mais bon,
ce livre-là... Raconte un peu l'histoire de ce livre. Ouais.
Je m'en viens. Je l'ai même relu il y a quelques jours, juste parce que c'est un livre que j'aime tant. Parce que dans la fiction, contrairement aux œuvres de référence, dans la fiction, on te permet d'accéder à des émotions et à des sentiments. Et chez le lecteur, tu peux aller chercher ces émotions et ces sentiments. Mais ce n'est pas nécessaire d'expliquer tous tes sentiments et tes émotions à toi. Et dans Le Grand Cahier, l'écriture est très formelle. L'écriture est très... aucune émotion, aucun sentiment. Et c'est l'histoire de jumeaux. Ils sont très jeunes, peut-être 10, 11. Je m'en souviens plus vraiment. Et ils font juste raconter toute leur histoire au moment de la guerre. Ils habitent à la campagne ou dans un village ou une très petite ville avec leur grand-mère. Ils racontent tout de manière très sobre. Aucun sentiment, aucune émotion, juste les faits. Mais leur manière de raconter, c'est la manière qui m'a le plus touchée. Parce que cette naïveté dans leurs paroles, j'ai trouvé ça tellement triste. Et c'est drôle comment c'est justement ça qui est venu me chercher, qui est venu chercher l'émotion et les sentiments. Et même dans mon livre, ce que je veux d'abord, c'est chercher l'émotion, le sentiment, la compassion. Je veux que la personne ressente l'espoir. Je veux que la personne, admettons, après avoir lu mon livre, elle aille aider quelqu'un. Elle aille écouter quelqu'un. Et je me dis que dans la fiction, oui, tu as une liberté. Oui, tu peux jouer avec l'éthique. Mais tu ne manques pas de respect.
Très bien. Catherine Mebrikakis, j'ai envie de vous entendre justement sur cette notion de sentiment dans l'écriture, la place de la transgression, l'autorisation qu'on peut se permettre comme romancier. Et puis je vous rappelle que le micro est là s'il y a quelqu'un qui a envie d'intervenir après. Allez-y, Catherine.
Mais je ne peux pas partager tout à fait la vision de Catherine sur le respect parce que pour moi, l'écriture n'a pas à respecter. Et parce que respecter qui, respecter quoi, respecter la vérité, ou respecter les gens, mais comment respecter les gens? Parfois, les respecter, c'est aussi leur faire violence. Je ne peux pas tenir tout ce discours sur le respect de la même façon et qui lui appartient et qui a fait le livre, le très beau livre qu'elle a fait aussi, c'est pas la question. Mais pour moi, il y a un certain devoir dans l'écriture, c'est sûr, et écrire appelle à ce devoir, mais ce devoir ne peut pas être prescrit d'avance. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un dogme de l'écriture qui nous dirait... C'est pas un essai, on fait pas des essais. L'écriture, justement, doit montrer des choses beaucoup plus troubles, doit montrer à la fois de la joie et du désespoir. L'écriture, si elle joue sur les sentiments, ne peut pas être prescriptive ou... elle doit travailler sur quelque chose de plus flou. Donc... oui, il y a quelque chose, vous parlez de transgression, oui, il y a quelque chose de trans... pour moi, j'ai lu un ouvrage qui n'existe plus beaucoup en français, des ouvrages qui n'existent plus beaucoup en français, de Kat Setnik, je vais le dire mal, c'est un écrivain donc, qui a vécu en Israël à la fin de sa vie, mais qui était d'origine juive polonaise, et lui a... Monsieur, vous parliez d'humiliation dans la maison de poupée. Il raconte beaucoup l'humiliation que subissent les femmes dans les camps de concentration, la prostitution, mais pas la prostitution comme on la connaît. Et bon, et puis les relations sexuelles forcées. J'ai trouvé que c'était le livre sur l'Holocauste qui était d'une certaine façon le plus irrespectueux. C'est-à-dire, mais il pouvait se le permettre parce qu'il l'avait d'une certaine façon vécu. Mais j'ai envie de dire que la littérature peut ça. C'est-à-dire que même s'il ne l'avait pas vécu, il aurait eu le droit de l'écrire quand même. Vous voyez? Et c'est très étonnant d'ailleurs parce que ces livres-là ont beaucoup disparu, en tout cas dans le domaine francophone de notre legs, de notre legs de l'Holocauste. Mais ce sont des livres très importants aussi. Il y a comme ça, il y a des espèces aussi de modes sur comment raconter l'Holocauste. Pour moi, il n'y a pas de réalité. C'est-à-dire, il y a différents types de narration et en ce moment, on est dans un certain type, mais il y a 30 ans, on était dans d'autres façons de le raconter. Et je ne juge pas ces façons-là. C'est-à-dire, je veux dire, il y a quand même des effets de mode et de réception.
Sonia, j'ai envie de vous entendre sur cette question. Effectivement, est-ce que dans la transgression, il y a une part d'affranchissement de cette histoire qui est salutaire?
Écoutez, dans la fiction, je pense que Catherine Mavrikakis a répondu. Mais pour la notion de respect, il m'est revenu de nouveau en mémoire un passage de Nadine Fresco, qui a été une des premières à dénoncer le négationnisme. Elle raconte, là, dans cet ouvrage, comment, au début, le négationnisme, donc ceux qui prétendent que tout ça n'a pas existé, à peu près une trentaine d'années, quand ça a émergé sur la scène, négationniste. Le premier négationniste, un des premiers fourrissons, il a été édité dans une maison d'édition qui s'appelait La Taupe, qui était une maison d'édition anarchiste. Ça veut dire qu'ils ont été soutenus par des gens qui sont d'extrême gauche sous prétexte qu'il n'y a rien au-dessus de la liberté d'expression. C'est-à-dire, comme si c'était maintenant la valeur absolutiste, idolâtrée, la liberté d'expression. Au nom de quoi on peut tout dire? Alors là, oui, j'invoque la notion de respect dont vous parliez tout à l'heure. Et elle relate une conversation entre un survivant de la Shoah et un négationniste intellectuel, pseudo-intellectuel, et qui coupe constamment cet homme et qui essaye constamment de le mettre en défaut. Et il y a quelque chose d'insupportable dans la scène qu'elle relate, et elle termine son texte en disant « On ne parle pas avec les négationnismes, mais il faut parler d'eux. » Alors oui, là, je pense qu'il y a une question d'éthique. Là, le respect s'impose. Et elle dénonce bien, et Pierre Vidal-Naquet aussi, qu'ils viennent, négationnistes, ils viennent toucher quelque chose du consensus humain sur cette question. En repoussant la frontière sur quelque chose déjà qui était de l'ordre de l'inhumain. Alors sur ça, oui, il faut se lever et dire stop. Là, la parole, le respect, il vient comme une barrière. Dans la fiction, ça se discute. Le livre des bienveillantes, on en a beaucoup parlé à ce niveau-là. Est-ce que se mettre dans la peau d'un SS, etc. Oui, il y en a qui sont rentrés dedans. Moi, j'ai même pas ouvert la première page. Mais je ne dénigre pas l'ouvrage. Il a sa place dans la littérature.
Pas pas d'intervention dans la salle. Maintenant, pour conclure peut-être cette soirée, je voulais vous inscrire un peu dans l'aujourd'hui. Il y a 65 ans, on a connu un peu cette abomination dont on parle ce soir et qui est l'objet de nos deux semaines de réflexion sur la série éducative sur l'Holocauste. Quel est, vous quatre, votre rapport à d'autres drames, à d'autres horreurs qui se vivent aujourd'hui? Est-ce que vous sentirez, pour les deux écrivaines, autant de confort, autant de facilité, et puis autant de lucidité à raconter, par exemple, ce qui se passe au Darfour, ce qui se passe, en Afghanistan, au Sri Lanka, où le passé, le fait d'être inscrit justement dans l'histoire, ça permet un recul nécessaire pour le confort d'écriture. Est-ce que c'est plus confortable d'écrire hier qu'aujourd'hui?
Je trouve pas vraiment. Je trouve qu'il faut autant écrire aujourd'hui qu'il faut écrire hier et qu'il faut même essayer d'écrire demain. Et les choses qui se passent en ce moment, elles sont très graves aussi, et il faut pouvoir en parler aussi. Parce qu'elles ne sont pas dans le passé, elles ne vont pas être oubliées, parce qu'elles sont là en ce moment. Mais même là en ce moment, il y a des choses dans le monde complètement inhumaines, mais qui sont négligées quand même. Donc oui, je trouve qu'il faut autant en parler.
Et qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent justement qu'à force d'insister sur le passé, sur ce qui s'est passé après tout, attendez, il y a quand même un demi-siècle que tout ça s'est produit, et puis entre-temps, il y a eu le Cambodge, il y a eu tout ce qu'on veut, arrêtez de nous prendre la tête avec cette foutue Shoah, il y a autre chose. Qu'est-ce que vous répondez à ça, Catherine?
Je sais qu'il y a eu le Cambodge, je sais qu'il y a eu le Rwanda. Et ma position, c'est pas juste de promouvoir la Shoah et d'oublier toutes les autres horreurs qu'il y a eu. Je parle tout autant de toutes les autres horreurs qu'il y a eu. Mais c'est pas parce qu'on en a beaucoup, 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 beaucoup parlé que maintenant il est temps d'oublier et de passer à autre chose. Parce qu'une fois que tu le laisses tomber, il va tomber. Et les générations futures, elles vont l'oublier ou même pas savoir que ça s'est passé. Parce que pour moi, il y a 50 ans, c'est il y a très longtemps. Très longtemps. Donc même si j'ai jamais vécu la guerre, le fait que ça m'a été transmis, je peux en parler. Et j'ai une position, et j'ai un message à passer. Mais si personne ne me transmet ce message d'abord, ça ne peut pas aller plus loin. Et les générations futures pourront pas en parler. Et moi, je trouve que c'est très important de transmettre le message et transmettre toutes les horreurs qu'il faudrait arrêter à un moment donné. Mais que c'est encore difficile à faire.
Catherine Mavrikakis, j'ai envie de vous entendre là-dessus.
Je sais pas quoi vous répondre. C'est-à-dire que je suis très poreuse à l'horreur contemporaine, tout à fait. J'avais d'ailleurs l'impression davantage de parler de l'horreur contemporaine dans mon livre que de l'horreur de la Shoah. C'est-à-dire, je voulais montrer que notre ciel américain qui se veut quand même très bleu et très entaché de toutes les horreurs aussi de ce monde, même si on se sent à l'abri sur ce continent qui n'aurait pas connu la guerre, nous sommes traversés par les guerres qui se passent dans le monde. Donc oui, pour moi, il y avait j'ai écrit sur ce sujet-là, à un certain moment donné de ma vie, mais est-ce que je suis touchée par ce qui arrive en ce moment? Absolument et complètement. Et je pourrais écrire là-dessus. Oui, je crois qu'on... Oui. Mais je pense qu'on peut faire seulement dans le singulier. C'est-à-dire que je crois qu'on peut...
on peut raconter que des petites histoires. Et puis, par les petites histoires, atteindre quelque chose de l'universel auquel je crois encore. Et j'ai l'impression qu'on ne peut être que dans des singularités, dans des fragments, dans des morceaux. Et alors, comment certaines choses nous touchent et que c'est notre entre guillemets, fragment d'un moment donné, ça, je ne sais pas toujours comment. Mais je me dis écrire et puis que ça soit simplement ça soit simplement une thématique, c'est pas très intéressant. J'ai l'impression qu'il faut aussi qu'il y ait des échos et que ça a des ramifications sur tous les plans.
Oui, les petites histoires, certes, mais quand même dans votre roman, et ça c'est très présent, c'est la conscience, la surconscience carrément de la grande histoire, cette Amérique qui s'est bâtie sur de rêves, sur le rêve américain. Vous le rappelez constamment que c'est aussi des histoires de plusieurs autres massacres, hein. C'est les immigrants qui viennent porteurs de leur propre grosse histoire, mais aussi les Indiens, et puis vous en parlez régulièrement dans ce livre, hein.
Oui, je suis d'accord. Mon héroïne a quelque chose d'une conscience historique, mais elle ne l'a que de façon singulière. J'ai essayé de montrer la petitesse de sa pensée, petitesse. Qui lui permet d'avoir accès à autre chose. Mais c'est par sa ville très moche où elle vit à Bay City dans un bungalow qu'elle arrive à toucher à quelque chose de plus grand. Mais elle ne peut pas d'avance se voir comme un sujet universel. Elle se voit comme un sujet à Bay City, et c'est par la douleur qu'elle vit, qui est la sienne, qu'elle peut arriver à toucher quelque chose de plus grand.
Sonia, vous serez d'accord avec moi, c'est probablement à travers justement ces histoires singulières et puis ce retour dans le passé qu'on s'inscrit un peu mieux dans l'avenir.
C'est sur le plan philosophique, c'est le débat du particulier et de l'universel. Vivre une souffrance, ça rend plus sensible à la souffrance d'autrui. Pour moi, il y a 50 ans, c'était hier. Donc l'un n'empêche pas l'autre. Vous savez, à côté de Martin Luther King, il y avait le rabbin Avraham Heschel. Les premiers à avoir fait un campement après le tremblement de terre à Haïti, c'était les médecins humanitaires de l'État d'Israël. Il faut cesser de croire que parler d'une chose empêche de parler d'une autre. Au contraire, ça permet de la saisir, de la comprendre. Et quant à ceux qui en seraient lassés, ben c'est des couillons, c'est tout ce qu'elle dit.
Est-ce que vous permettez que j'accorde quand même le mot de la fin à notre chère Olga? J'avais envie effectivement de vous entendre après avoir été replongée à travers ces deux romans. Je ne sais pas si vous avez eu le privilège de lire le livre de Catherine Mavrikakis. Je sais que vous avez eu celui de Catherine Schwetz. Et maintenant, comme dirait l'autre, et maintenant que vais-je faire? Qu'est-ce que vous retenez d'aujourd'hui et quel regard vous portez à demain?
Je suis bénévole au musée. Et quand le groupe vient, je demande, pas le groupe, les personnes singulières ou les couples, pourquoi vous êtes ici? Alors, j'ai reçu beaucoup de réponses et je suis très heureux quand j'écoute. C'est important pour nous de savoir une couple de Québec Nord, de El Salvador, un couple. Quelle est la liaison entre le Holocauste et votre pays? Il me dit. Alors, ce n'est pas un secret plus, ce n'est pas un sujet qu'on ne peut pas parler, on ne veut pas parler, puisque c'est dégoûtant ou il y a beaucoup de raisons. Il y a absolument l'intérêt, comment on dit, non, la curiosité qui demande les questions, c'est la base, et venir et voir et parler à nous. Et j'avais les moments très émouvants, puisque une femme qui est venue de Paris, elle m'a pris ma main, elle ne voulait pas laisser. Et comment tu es sauvée, elle était vraiment très émotionnelle. Mais quand je n'explique rien, puisqu'on ne peut pas expliquer, mais toujours enfin, encore les questions. Et j'encourage les enfants. N'envoyez pas mes lettres, chère madame, c'était bon, tout ça. Qu'est-ce que vous avez Quelle impression vous avez retenue? Oui. Qu'est-ce que vous, maintenant vous allez au monde, vous sortez, qu'est-ce que vous allez à ce souvenir? Est-ce qu'il y a un événement ou la grande tristesse ou quoi? Parfois, j'ai reçu les lettres, ils me l'envoient, c'est bon. C'est aussi une initiative de professeurs. Alors, je parle toujours aux professeurs, encouragés d'envoyer les lettres, mais avec les questions. Pourquoi? Quelles questions vous avez? Quelles questions vous posez maintenant après avoir tout ça? Pour l'avenir, je ne suis pas très optimiste. Pas pour notre pays, mais ça que ça arrive partout. En Afrique, vous avez dit Darfour, Soudan, je ne sais pas. C'est catastrophe pour moi.
Merci beaucoup, Olga. Merci. Voilà, ça c'est le privilège qu'on va vivre encore pendant quelques jours avec cette série éducative sur l'Holocauste. C'est un bonheur, c'est un droit exceptionnel qu'on vous offre pendant ces quelques jours qui nous restent encore. Vous allez rencontrer des gens comme Olga, comme monsieur, des gens qui ont vécu cette histoire, et c'est une histoire extrêmement contemporaine. C'est une histoire aussi où on rencontre pas mal d'anecdotes d'inhumanité, mais c'est des histoires aussi de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'humanité. Et je remercie Catherine Schwetz qui a raconté à sa manière cette histoire à travers son roman Hitler et la fillette, une série de nouvelles qui vous saisissent, qui vous lâchent pas. Et puis Catherine Mavrikakis avec Social Bay City, je vous promets que une fois que vous prenez ce livre, vous allez pas le lâcher. Et puis mes deux lectrices, Sonia et Olga, merci d'avoir fait vraiment l'exercice, merci de votre attention. Et je vous rappelle que la série éducative continue, il va y avoir encore d'autres témoignages, il va y avoir des films, et puis Audrey est en train de passer à travers la salle pour vous offrir pour vous proposer un formulaire pour nous faire vos parts de commentaires, parce que à travers tout ça, c'est un dialogue qu'on a envie de nouer, d'entretenir avec vous. Faites-nous vos commentaires, dites-nous ce qu'on pourrait améliorer à travers cette campagne de série éducative. Merci infiniment, passez une excellente soirée et à la prochaine peut-être.